Je supposais que je devais faire un discours sur ce livre. Est-ce que vous voudriez changer de ton?
Non,
Donc, je le fais.
oui.
Je puis expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, parce que tous les utilisateurs possèdent les mêmes droits. Égalité, liberté, parce que les utilisateurs sont libres d'utiliser le programme individuellement ou collectivement sans le contraint de l'autre. Égalité, parce que tous les utilisateurs possèdent les mêmes droits. Vous voyez que. Même avoir bu beaucoup de Pepsi, j'ai sommeil. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Nous encourageons chaque utilisateur à aider les autres. Ou les développeurs de logiciels propriétaires interdisent la coopération. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les utilisateurs soient libres? Un programme est libre s'il respecte les libertés des utilisateurs. Mais quelles libertés? Il y a quatre libertés essentielles. La liberté zéro, c'est la liberté de faire tourner le programme comme vous voulez. La liberté numéro un, c'est la liberté d'étudier le code source et de le changer. C'est la liberté d'aider vous-même. C'est la liberté de faire du programme ce que vous voudriez. La liberté numéro 2, c'est la liberté d'aider le voisin. La liberté de distribuer des copies du programme. Et la liberté numéro 3, c'est la liberté d'aider à construire la société entière. C'est la liberté de publier une version modifiée pour que les autres puissent avoir les bienfaits de votre travail. Toutes ces quatre libertés sont essentielles. Si une des quatre manque plus ou moins, le programme n'est pas libre et ne doit pas être utilisé. Mais pourquoi ces quatre libertés? C'est facile de le dire, mais il faut avoir des raisons. La liberté zéro est évidente. Si vous n'êtes pas même libre de faire tourner le programme quand vous voulez pour n'importe quel but légitime, c'est évident que vous n'êtes pas libre dans l'utilisation du programme. Et il y en a des programmes propriétaires avec des restrictions sur l'utilisation même du programme. Mais la liberté numéro 0 ne suffit pas pour avoir le contrôle de votre ordinateur. Il faut aussi la liberté numéro 1. Parce que la liberté 0, c'est la liberté de faire tourner le programme tel quel. C'est la liberté de faire ce que le développeur a choisi, rien d'autre. Et ce n'est pas vraiment la liberté. Avec la liberté 1, c'est la liberté d'étudier le code source. Comme ça, vous pouvez savoir ce que fait vraiment le programme et la liberté de le changer. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voudriez utilisant ce programme. Sans cette liberté, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que le programme fait quand vous l'utilisez. Parce que il peut même y avoir des fonctionnalités malveillantes, introduites pas pour vous servir, mais plutôt pour vous restreindre ou nuire, vous surveiller. Et souvent, l'utilisateur n'est pas conscient de l'existence même de ces fonctionnalités. Elles sont secrètes. dans la ressource secrète. Par exemple, beaucoup de programmes propriétaires font de la surveillance d'utilisateurs. Ils s'appellent spyware. Un grand exemple, c'est Windows. Windows XP, quand vous cherchez un mot dans vos fichiers, Windows envoie ce mot à Microsoft. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut voir avec un peu de soin que ça se passe. Microsoft ne le dit pas aux utilisateurs, mais c'est la surveillance. Et aussi, quand Windows XP cherche, demande une actualisation, il dit aussi à Microsoft quels programmes sont installés dans votre disque. Aussi, la surveillance. Et ça, c'était secret. Il fallait une investigation soigneuse pour savoir que Windows le faisait. De plus, il y a quelques ans, il y avait un scandale parce que Windows envoyait cette information à Microsoft. Et Microsoft a ôté cette fonctionnalité. Mais plus tard, il l'a réintroduit au cachet. En cachette. Merci. Mais il n'arrête pas avec la surveillance parce que beaucoup de programmes ont des fonctionnalités explicites pour ne pas fonctionner. Ça s'appelle DRM, Digital Restrictions Management. Je ne peux pas ouvrir ce fichier. Je ne veux pas sauver ce fichier. Des restrictions introduites, pas pour vous servir, mais pour ne pas vous servir. Et quand il y a telle fonctionnalité, bien sûr, les utilisateurs la voient, mais ne peuvent rien faire. Mais il peut être encore pire, parce que peut avoir les portes en arrière. Les arrière-portes,
les portes dérobées.
Par exemple, Windows XP, quand il demande une actualisation, il dit à Microsoft qui le demande, qui est l'utilisateur. Et Microsoft peut vous donner une actualisation spécifique pour vous. Avec n'importe quoi, même une accusation qui ne fait rien, qui ne fonctionne point, et vous n'auriez pas de recours dans un tel cas. Ça, c'est la porte dérobée que Microsoft a introduite. Il peut en y avoir dont Microsoft et nous sommes également ignorants parce que en Inde, ils m'ont dit que des programmeurs qui travaillaient sur Windows étaient arrêtés et accusés de travailler pour Al-Qaïda, introduisant une porte dérobée, pas pour Microsoft. Cet essai, apparemment, n'a pas réussi. Est-ce qu'il y avait un autre qui a réussi? Nous ne savons pas. Peut-être Microsoft même ne sait pas. Personne ne peut savoir parce que personne ne peut investiguer. Je ne dis pas que tous les développeurs de programmes propriétaires essaient d'introduire des fonctionnalités malveillantes délibérément. Mais tous les développeurs sont humains et font des erreurs. Donc, tous les développeurs de programmes propriétaires conçoivent des fonctionnalités que les utilisateurs n'aiment pas. Et tous les développeurs écrivent des erreurs dans le code. Et vous ne pouvez rien faire contre ces problèmes. Nous, les développeurs de logiciels libres, aussi sont humains. Aussi commettons des erreurs. Aussi nous concevons des fonctionnalités que vous n'aimerez pas. Aussi nous écrivons des erreurs dans le code. Mais avec notre logiciel, vous n'êtes pas prisonnier de nos décisions. Vous pouvez les changer toutes. Et voici la différence. Les développeurs de logiciels propriétaires vous maintiennent impuissants, incapables de vous échapper de ces décisions. Mais nous, non. Nous respectons votre liberté. Vous n'êtes pas prisonnier de nos décisions, comme vous seriez prisonnier des décisions des autres. Mais la liberté numéro un ne suffit pas, parce que c'est la liberté de faire personnellement les changements que vous souhaitez. Et cette liberté ne suffit pas pratiquement. Pourquoi? Premier, parce qu'il y en a des millions d'utilisateurs des ordinateurs qui ne savent pas programmer, qui ne sont pas capables de faire personnellement les changements qu'ils désirent. Mais même pour les programmeurs, la liberté numéro un ne suffit pas, parce qu'il y a trop de logiciels, même trop de logiciels libres. Personne ne peut maîtriser tout pour faire personnellement tous les changements qu'ils désirent. Ce sera trop de travail pour une personne. La seule manière d'avoir vraiment le contrôle sur le logiciel que nous utilisons, c'est de faire collectivement, ensemble. Et pour ça, nous avons besoin de la liberté numéro 3, la liberté de publier une version modifiée. Comme ça, un programmeur peut faire un changement utile pour lui et pour des autres aussi, et peut le publier, et les autres qui l'aiment peuvent utiliser cette version modifiée. Ensuite, un autre programmeur peut faire un autre changement qui peut-être mène dans la même direction. Et enfin, après beaucoup de changements, il y aura un programme qui plaît plus aux utilisateurs. Et comme ça, tous les utilisateurs, même ceux qui ne savent pas programmer, ont une version qu'ils désirent, en lieu de la version ancienne. S'il y a 1 million d'utilisateurs qui désirent une fonctionnalité améliorée, par hasard, il y aura peut-être 1000 parmi eux qui savent programmer. Et un jour, peut-être 10 feront le changement et publieront leur version modifiée et tous les millions auront la fonctionnalité qu'ils désirent. Mais imaginons qu'il y a une plus petite quantité d'utilisateurs. Peut-être qu'il y a 1000 utilisateurs qui désirent un changement. Et personne d'entre eux s'est programmé. Ils peuvent toujours avoir les bienfaits de la liberté numéro 3. Ils peuvent toujours avoir le contrôle de leur logiciel. Parce qu'ils peuvent faire une organisation. Et l'organisation peut faire le collecte d'argent. Chacun peut contribuer la quantité égale. Si chacun des 1000 utilisateurs contribue 100 dollars, il y aura 100 000 dollars. Avec 100 000 dollars, on peut payer peut-être 2 programmeurs pour un an. Ça suffit pour faire des grands changements. Et quand l'organisation cherche des programmeurs à embaucher ou une entreprise avec laquelle faire un contrat, elle peut demander à une entreprise de programmation, est-ce que vous pouvez le faire pour 100 000 $ et quand? Et si l'organisation d'utilisateurs n'aime pas la réponse, elle peut demander à une autre entreprise de programmation.
Je préfère
cette entreprise-là. Ah bon? Je ne sais pas s'il y a vraiment des entreprises. J'ai sélectionné des assistants. Bon. Donc, mais l'organisation peut choisir. Ce qui nous montre que le logiciel libre entraîne un marché libre pour les services. Pour le logiciel propriétaire, le support est un monopole. Presque toujours. Parce que seulement le développeur possède le code source. Seulement lui peut faire n'importe quel changement. Et donc, c'est un monopole. C'est pour ça que parfois les développeurs exigent un paiement pour se plaindre. Payez-nous et vous pouvez nous rapporter un problème. Et si vous le faites, ensuite il vous dit dans 6 mois il y aura une actualisation. Achetez l'actualisation et vous verrez si nous aurions corrigé l'erreur et quelles erreurs nouvelles il y aura. Mais avec le logiciel libre, il y a un marché libre pour le support. Donc pour les utilisateurs qui valorisent vraiment le support, ils ont la possibilité d'avoir de meilleurs supports pour un meilleur prix avec le logiciel libre. Bien sûr, il faut payer. Le logiciel libre veut dire que les gens sont libres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de travailler pour vous. Parfois, ils le feront pour la fraternité. Mais pas toujours, pas forcément. Donc, si vous voulez être assuré de ce que quelqu'un travaille sur un problème pour vous, il faut payer. Et c'est normal. Mais j'ai pas mentionné la raison pour la liberté numéro 2. C'est parce que les libertés 0, 1 et 3 sont essentielles pour avoir le contrôle sur nos propres ordinateurs. La liberté numéro 2 est essentielle pour une raison plus profonde, pour pouvoir vivre une vie éthique. Parce que si vous utilisez un programme qui vous nie la liberté 2, ça veut dire que vous êtes dans l'état de risque de tomber en n'importe quel moment dans un dilemme moral. Si quelqu'un vous visite et vous demande une copie, peut-être votre ami, peut-être un inconnu, c'est la même chose. S'il vous demande, s'il vous dit ce programme me paraît utile, voudriez-vous me faire une copie? En ce moment, vous êtes entré dans le dilemme moral parce que vous n'avez pas la possibilité d'être un bon voisin envers lui. Vous devez choisir entre deux mots. Un mal, c'est lui faire la copie et... Non, ce n'est pas de... Violer une loi injuste n'est pas un problème moral. Il s'agit de violer un contrat qui, oui, est un problème moral. Donc, on peut être un bon voisin, on peut lui faire la copie et violer le contrat. et l'autre mal est suivre le contrat et aussi la loi et être un mauvais voisin. Il faut élire le moindre mal qui est lui faire une copie et violer le contrat. Parce que comme ça, on fait mal à quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui a consciemment essayé de vous divider des autres. Mais, ayant compris cet argument, ce que vous devez faire est éviter la situation. Ne pas vous mettre en position de tomber dans ce dilemme moral. Et vous pouvez le faire par ne pas utiliser ce programme. Si vous n'utilisez pas ce programme, vous ne risquez pas d'avoir un dilemme moral. Et c'est ça qu'il faut faire, ayant compris le sujet éthique. Il faut toujours refuser les programmes propriétaires, il faut vous limiter au programme libre, comme je le fais moi-même. Et je le fais pour cette raison-ci, parce que je ne veux pas agir de manière qui n'est pas éthique. Je ne veux pas être un mauvais voisin et refuser de partager les programmes avec les gens. Je ne veux pas non plus que mes voisins soient tentés à signer des contrats de ne pas coopérer avec moi. Parce que j'ai besoin de mes voisins. Je ne vis pas seul, je ne suis pas une île, comme personne ne l'est. J'ai besoin de vivre dans une société où les gens sont préparés à m'aider parfois. Et donc je dois être d'accord à leur aider parfois. Si je fais la promesse de ne pas aider le voisin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rompu la solidarité sociale. Et la société ne dure pas comme ça. Le recours le plus important, la ressource le plus important de n'importe quelle société, c'est l'esprit de bonne volonté, l'esprit d'aider le voisin. Pas toujours, bien sûr. Personne ne passe plein temps à aider en chaque moment un voisin. On peut parfois dire non, il y a d'autres choses dans la vie, mais il faut des fois dire oui. Et l'esprit d'aider le voisin fait la différence entre une société vivable et le genre. Ce n'est pas par hasard que les religions majeures du monde ont promu depuis quelques mille années l'esprit de bonne volonté, l'esprit d'aider les autres. Qu'est-ce que ça veut dire donc quand les institutions sociales importantes disent qu'il ne faut pas aider le voisin? C'est empoisonner sa ressource et la société ne peut pas le supporter. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent que partager avec le voisin, c'est être pirate? Ça veut dire qu'ils équivaut l'aide aux voisins à attaquer les navires. C'est le contraire de la moralité, parce que attaquer les navires est très très mauvais. Mais aider le voisin, c'est admirable. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ils imposent des punitions de beaucoup d'années en prison pour avoir aidé le voisin? C'est un système de terreur. Combien de terreur est-ce qu'il faudra pour que les gens n'aient plus les gens? Est-ce que vous voulez vivre dans un tel état de terreur? Regardez la loi de l'économie numérique. C'est quoi? C'est l'état de terreur. Et c'est comme ça que la liberté numéro 2 est essentielle. C'est la liberté qui permet la vie éthique, la vie de voisin avec des voisins dans une communauté. Le logiciel propriétaire est distribué de manière à maintenir les utilisateurs dans un état de division et impuissance. Division parce qu'ils sont interdits de partager l'un avec l'autre, et impuissance parce que chacun est incapable de changer le programme qu'il utilise. Divider et dominer, c'est la stratégie. Et c'est cette stratégie et cet état de division et impuissance que nous refusons dans le mouvement de logiciel libre. C'est un mouvement pour vivre dans la liberté, dans une communauté. Un mouvement pour la liberté d'avoir une communauté. Souvent, nous pensons que la liberté et les devoirs vers la communauté sont des choses opposées. Mais dans ce contexte, ces choses sont du même côté. Et de l'autre côté, il y a la domination par les développeurs, par les propriétaires du logiciel. Dans les années 80, j'ai pensé à ce sujet et je suis arrivé en 83 environ que le logiciel propriétaire est moralement insupportable, que c'est un système injuste qui doit être remplacé sur le plan social. Je suis arrivé à la conclusion de ce qu'il soit immoral de publier un programme propriétaire et même, mais pas si grand, que c'est un mal d'être utilisateur. Parce que, en tant qu'utilisateur, on a signé le contrat de ne pas aider le voisin. On a rompu la solidarité sociale, vous-même, en tant qu'utilisateur. Et donc, je suis arrivé à la conclusion de ce que je ne dois faire ni l'un ni l'autre, mais comment l'éviter? À l'époque, tous les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs modernes étaient propriétaires. Il était impossible d'utiliser un ordinateur sans signer un tel contrat, sans rompre la solidarité sociale. J'aurais pu éviter cette mauvaise vie par ne plus utiliser un ordinateur. Et j'ai considéré cette option. Mais ça aurait été éviter faire partie du problème personnellement, mais ça n'aurait rien changé réellement. Pas rien pour les autres. Donc j'ai cherché comment agir de manière à faire un changement social qui libérerait le reste des utilisateurs de ce système. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait un système d'exploitation libre. Et moi, j'étais développeur des systèmes d'exploitation. Quand je l'ai compris, j'ai vu que j'étais élu par les circonstances à faire ce travail. Je possédais les talents pour faire le travail. Je voyais la nécessité de le faire et j'étais conscient de ce que personne d'autre ne le ferait si moi je ne le faisais pas. Donc, je devais le faire. C'est comme si vous savez nager et vous voyez quelqu'un en train de se noyer. Et il n'est pas bouche. Vous avez le devoir de le sauver. Peut-être ce que j'ai dit est trop fort. Cheney aussi. Et autres exceptions. Et Kerry aussi. Il y en a d'autres, je suppose. Mais c'est presque la vérité. De toute manière, je ne sais pas nager, mais je sais bien écrire du code. Et en ce cas, le travail n'était pas nager, le travail était écrire des grands programmes, beaucoup de grands programmes, et beaucoup de petits programmes aussi, pour avoir tout un système d'exploitation. Une grande collection de programmes qui fonctionnent ensemble pour faire les travaux normaux de l'utilisateur, de l'ordinateur. Donc j'ai lancé le développement du système d'exploitation libre GNU. D'abord, j'ai décidé de faire un système d'exploitation libre. Il fallait choisir la conception technique de ce système. Mais c'était évident qu'il me faudrait beaucoup d'années pour développer tout un système d'exploitation. Et je ne savais pas quelle architecture d'ordinateur s'utiliseront à la fin de beaucoup d'années. Donc je devais développer un système portable. Et je ne connaissais qu'un système portable qui était Unix. Donc j'ai décidé de suivre la conception en grand de Unix. Et comme ça, j'aurais la bonne probabilité de pouvoir développer un système portable. Mais aussi, je comprenais que les changements intuitifs ne plaisent pas aux utilisateurs. Si j'ai développé un système d'exploitation avec toutes mes idées favoris, il aurait été incompatible. Et les utilisateurs m'auraient dit, c'est très beau, mais c'est incompatible. La note sera un grand changement. Nous avons formé l'équipe à utiliser Unix. Nous avons écrit des programmes pour Unix. C'est trop difficile. Merci, mais non. Et comme ça, je m'aurais pu dire une excuse. Je les ai offert la liberté. Ils ne la veulent pas, c'est de leur faute. Mais je voulais faire quelque chose de plus que me faire des excuses. Je voulais construire une communauté où il y aurait des gens vivant en liberté. Donc je devais écrire un système que les utilisateurs utiliseraient. Et j'ai décidé de faire un système compatible avec Unix, avec les mêmes interfaces. Comme ça, le changement serait beaucoup plus facile. Et en fait, c'était comme ça. Mais un système compatible avec Unix doit contenir beaucoup de composants qui se communiquent entre eux par des interfaces plus ou moins documentées. Donc, toutes les décisions initiales déjà été faite à cause de cette décision d'être compatible. Il ne restait que choisir le nom. Nous, les hackers, ce qui veut dire les gens qui s'amusent par l'intelligence, dans la programmation et dans d'autres champs de la vie, quand mon travail à l'université était le travail d'être hacker, le travail d'améliorer le système d'exploitation que nous utilisions. Et dans ce milieu, il y avait une tradition des hackers que quand on écrit un programme compatible ou semblable à notre programme, pas forcément compatible, on peut lui donner un nom qui est un acronyme récursif qui dit que ce programme, votre programme, n'est pas l'autre. Par exemple, dans les années 60 et 70, il y avait beaucoup d'éditeurs de textes qui s'appelaient quelque chose TICO, plus ou moins semblable. Mais un hacker malin avait l'idée d'appeler son programme, son éditeur, Tint, qui voulait dire Tint is not Tico, le premier acronyme récursif. C'était très très amusant, très drôle. Et donc nous cherchions des occasions pour utiliser d'autres noms, d'autres acronymes récursifs. Non. Par exemple, en 75, j'ai développé le premier éditeur de texte Emacs, l'éditeur qui pouvait être changé durant l'utilisation par l'utilisateur. Et il y avait beaucoup d'imitations d'Emacs. Quelques-uns s'appelaient quelque chose Emacs, mais il y avait aussi Fine, pour Fine is not Emacs. Aussi, il y avait Sign, pour Sign is not Emacs. Il y avait Eine, pour Eine is not Emacs. Et Mince, pour Mince is not complete Emacs. Aussi, il y avait la version 2 de Eine, s'appelait Zwei, pour Zwei was Eine initially. On peut s'amuser beaucoup avec les acronymes aussi. Donc je cherchais un acronyme récursif comme nom pour mon système nouveau. Et j'ai cherché comment dire quelque chose is not Unix. Mais j'ai essayé toutes les combinaisons avec les 26 lettres et puis is not Unix. Et aucune n'était un mot en anglais ni en français. Et s'il n'a pas d'autre signification, il n'est pas drôle. Donc j'ai cherché un autre moyen, une contraction. Comme ça, j'aurais pu avoir un acronyme récursif de 3 lettres. J'ai essayé toutes les lettres. Inu, Bnu, Knu, Dnu, Inu, Fnu, Gnu. Mais le mot Gnu, c'est le mot plus drôle De la langue anglaise. Donc la description a été faite. Pourquoi est-ce que le mot nous est si drôle? C'est parce que selon le dictionnaire, il se prononce nous comme nouveau. Et donc les gens ont commencé à demander aux autres what's new en lieu de what's new, quoi de neuf. Beaucoup d'années avant le système du nous. Mais de toute manière, l'humour autour de ce mot s'augmentait à travers les années. Et j'ai choisi ce nom. Mais quand c'est le nom de notre système, il faut ne pas suivre la prononciation dans le dictionnaire. Il faut dire GNU. Surtout en anglais, parce qu'on veut confondre les autres s'ils pensent qu'il s'agit d'un système nouveau. Parce que nous avons travaillé dessus pendant 20 ans, il n'est plus nouveau. Mais le système est toujours le système GNU. Bien que son utilisateur l'appelle Linux erronément. Notre travail pendant les années 80 était de développer beaucoup de composants pour avoir un système entier qui fonctionnait. Et enfin, en 91, nous avions presque tous les composants, mais un composant essentiel manquait toujours, c'était le noyau, le composant de base qui alloue les ressources de la machine aux autres programmes qui se tournent. Qui tournent dans la machine. Et nous avons commencé le développement de notre noyau en l'année 90. J'ai choisi une conception que je pensais offrait la possibilité de terminer le développement très vite. Mais c'était peut-être une erreur parce qu'il fallait beaucoup d'années pour que notre noyau fonctionne. Notre noyau s'appelle le GNU Herd, le troupeau de GNU. Parce que c'est vraiment. Parce que les GNU en Afrique vivent dans des troupeaux. Donc c'est un troupeau des programmes serveurs de GNU. Le Herd de GNU. De toute manière, nous n'avons pas besoin d'attendre parce que. En 1991, un étudiant en Finlande a écrit son propre noyau. Au commencement, ce noyau, qui s'appelait Linux, n'était pas libre. Mais en 1992, il a changé de licence et comme ça, il a libéré son noyau. En fait, il a choisi la licence que comme licence libre, il a choisi la licence que j'avais écrite pour les programmes de GNU, la licence publique générale de GNU. Il y en a d'autres licences libres, il faut comprendre. Étant libre, ce noyau pourrait être combiné avec le système presque complet, GNU. Et la combinaison était un système complet qui pouvait fonctionner dans un ordinateur. Et comme ça, notre cible était atteinte. La cible d'avoir un système complètement libre qu'on peut utiliser pour faire des travaux ordinaires dans un ordinateur. Mais les gens qui ont combiné le système Blue et le noyau Linux ont commis en même temps une erreur de confusion. Ils appelaient la combinaison entière Linux, qui est vraiment le nom du noyau. Et comme ça, maintenant nous avons des dizaines de millions d'utilisateurs du système Blue, d'une version du système Blue, qui ne le savent pas, ils ne reconnaissent pas que c'est le système Blue qu'ils utilisent. Ils pensent que le système est complètement Linux. Ils ne sont pas conscients de l'origine de ce système ni de son but. Et c'est ça le problème le plus important. Parce que Linus Torvalds, l'étudiant finlandais qui a écrit le noyau, il l'a fait pour s'amuser. C'est un bon motif, d'accord, s'amuser et s'amuser, faire un travail utile pour la société, pour s'amuser, c'est une bonne chose. Je ne le critique pas. Mais quand les gens supposent que la vision, que la conception du système entier vient de lui, ils ne se rendent pas conscients de ce que le système existe pour la liberté. Et ça entraîne des problèmes sociaux, parce que les gens qui ne valorisent pas leur liberté sont prêts à le perdre. Toujours, il y en a qui vous offrent quelque chose de commode en échange de votre liberté. Et si vous ne valorisez pas la liberté, vous serez prêt à accepter ce traite, cet échange, et comme ça vous aurez perdu la liberté. Ça se passe facilement et souvent. Et donc il ne suffit, pour avoir la liberté dans le futur, il ne suffit pas d'avoir la liberté aujourd'hui. Il faut également comprendre la valeur de la liberté pour agir de manière à garder la liberté. Aujourd'hui, il y a un autre mouvement. Le mouvement de logiciels libres n'est plus le seul mouvement dans notre communauté. Il y a un autre qui s'appelle Open Source. Et ce mouvement a été lancé en 1998 explicitement pour éviter de mentionner la liberté comme but, pour éviter de poser la question morale de si les programmes doivent respecter la liberté d'utilisateur ou pas. Ils ne veulent pas encadrer le sujet comme ça. Ce mouvement-là ne mentionne que des valeurs pratiques comme avoir des programmes plus forts, plus fiables. Et bien sûr, ce sont des valeurs, mais ces valeurs sont moins importantes que les valeurs de liberté et communauté, que les valeurs des droits de l'homme. Et par ne jamais mentionner les droits de l'homme, ils découragent l'attention aux droits de l'homme. Ils essaient de mener les gens dans la direction de ne faire attention qu'aux valeurs pratiques. Et ça, c'est un danger. Même si un tel mouvement arrive à une situation où tout logiciel soit libre, ça ne peut pas durer parce que les utilisateurs ne seront pas conscients de pourquoi se maintenir dans un tel état. et sans faire l'effort de maintenir la liberté, on perd la liberté. Maintenant, ce qu'il faut faire dans notre communauté, bien sûr, il y a développé plus de programmes libres. Et on peut faire ce travail pour beaucoup de motifs. Mais aussi, il faut, et c'est même plus important au long terme, il faut éduquer les utilisateurs à apprécier la liberté qu'ils possèdent. Et pour ça, il faut appuyer le mouvement de logiciels libres. Il ne suffit pas de mentionner aux utilisateurs les bienfaits pratiques que beaucoup de programmes libres peuvent leur offrir. Il faut en même temps les éduquer à exiger la liberté. Le mouvement open source et Microsoft proposent les mêmes valeurs, mais proposent des chemins, des moyens différents pour les avoir. Donc les deux peuvent discuter quels programmes sont plus forts, plus fiables, plus apte au marché. Et ce peut être l'un ou l'autre. Mais et quand un utilisateur est convaincu par ce mouvement, il se tend toujours d'avoir un programme plus commode, plus puissant. Ou sinon, il va au propriétaire. Mais si un utilisateur est convaincu par le mouvement de logiciels libres, il a appris des autres valeurs, les valeurs de la liberté, égalité et fraternité. Et c'est quelque chose que Microsoft ne peut jamais offrir. Pas de danger qu'il choisisse Microsoft ou Adobe ou n'importe quel développeur, n'importe quelle marque de logiciel propriétaire en lieu du libre, quand il valorise la liberté. Aussi, à part le travail de développement de logiciels, nous avons un travail complètement différent maintenant, parce que nous avons quelque chose qu'au commencement nous n'avions pas, des ennemis. Au commencement, le mouvement de logiciels libres n'avait pas d'ennemis. Personne ne cherchait à nous empêcher de développer un système libre. L'obstacle était beaucoup de travail à faire. Et c'était tout. Donc, nous cherchions des programmeurs pour écrire tous les programmes. Mais maintenant, il y a des lois proposées pour interdire notre travail, pour interdire les programmes libres. Par exemple, aux États-Unis et en Union européenne, il y a des lois qui plus ou moins interdisent les programmes libres pour dans un champ, le champ d'accès aux données cryptées. Par exemple, les vidéos dans les disques DVD sont écrites dans un format crypté et qui était au commencement un secret aussi. Mais des programmeurs en Europe ont découvert le format et ont publié un programme libre pour lire le vidéo. Et comme ça, il y a ce programme qui s'appelle DECSS, un programme libre, a rendu possible l'utilisation des DVD dans un système libre. Ce programme est actuellement censuré aux États-Unis et j'ai peur de ce qu'il soit censuré également en Europe quand la directive âgée déjà de peut-être 2 ans environ de droit d'auteur soit implémentée. Il reste la possibilité de l'implémenter de manière à ne pas interdire les programmes libres qui font la même chose que les programmes autorisés. Mais qui sait? De toute manière, les gouvernements de l'Europe ont pris l'habitude d'implémenter cette directive de manière beaucoup plus dure que nécessaire. Et maintenant, l'Union européenne est en train de considérer un système de brevets sur les idées de l'informatique. Quelqu'un d'autre a parlé déjà à ce sujet, donc je n'ai pas besoin de l'écrire, d'aller plus loin à ce sujet. Mais en même temps, la résistance contre cette directive. Et le premier exemple de la résistance démocratique contre l'interdiction de logiciels libres. Parce que c'est dans la communauté de logiciels libres que l'opposition a commencé. Maintenant, il y a aussi l'opposition au sein des rédacteurs de logiciels propriétaires et parmi les économistes. Et parmi les partis politiques qui n'aiment pas imposer les restrictions à la part des grandes entreprises. Mais donc, il y a beaucoup d'opposition et nous pouvons gagner. Et c'est la première fois. Tous les autres pays qui ont adopté les brevets informatiques l'ont fait sans débat public. Nous avons besoin donc pas seulement d'écrire des programmes et d'écrire des manuels, mais maintenant de nous organiser politiquement pour opposer les lois injustes qui interdisent le logiciel libre. Et the outcome. Le résultat final, nous ne pouvons pas voir, parce que c'est l'avenir. Et cela dépend de vous. Si nous battons pour la liberté, peut-être nous pouvons garder la liberté. Si nous ne battons pas, c'est probable que nous le perdrons. Et maintenant, pour terminer, je veux dire que notre site web s'appelle www.gnu.org. Il y a aussi, aux États-Unis, il y a depuis 19 ans l'FSF. Mais maintenant, il y a aussi l'FSF Europe, une organisation indépendante, associée, et vous pouvez l'aider à organiser pour le logiciel libre ici en Europe, qui a le site fsfeurope.org. Pour aider dans la campagne contre les brevets informatiques, il faut aller à ffii.org. C'est l'organisation centrale qui gère la bataille contre les brevets informatiques. J'ai des choses à vendre de la part de la FSF. J'ai des badges. Ce badge-ci Et j'ai des pins aussi qui sont plus petits mais plus élégants. Et aussi j'ai des porte-clés. Et j'ai des autocollants gratuits. Prenez la quantité d'autocollants que vous savez utiliser de bonne manière. Ou un peu plus. Et aussi, je vous invite à adhérer à l'FSF. Vous pouvez le faire à travers notre site web que j'ai déjà mentionné, www.gnu.org. Et prière quand vous mentionnez le système qui est à la base qui est GNU, mais avec la chanson de Linux. Prière de ne pas l'appeler Linux tout court. Ce n'est pas juste. C'est le travail que nous avons fait pour la liberté. Et il est essentiel pour notre futur que les utilisateurs le sachent. Et pour leur aider à apprendre, vous pouvez appeler le système GNU et Linux. Parce que comme ça, si un utilisateur a vu le nom GNU et Linux, un jour, il verra quelque chose écrit sur la philosophie de GNU, la philosophie du mouvement de logiciel libre que j'ai expliqué aujourd'hui. Et étant conscient d'être utilisateur de GNU, il fera plus attention à la philosophie de GNU. S'il se pense, s'il se prend d'être utilisateur de Linux, il ne fera pas attention à la philosophie de GNU. Il se dira, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne suis pas utilisateur de GNU, je suis utilisateur de Linux. Mais en vérité, il est un utilisateur de GNU. Pour qu'il le sache. Donc, prière de les éduquer. Et si vous dépassez 10 secondes par jour, disons GNU et Linux en lieu de Linux, ce sera un travail très efficace pour nous aider. Et si vous avez juste 10 secondes à dépenser, il y a d'autres choses que vous pouvez faire.